Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait, avec Luca Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
Un jour de 1998, l'aéroport Charles de Gaulle affiche le vol Paris-New York complet. Les gens se pressent dans un avion pas comme les autres et dont 10% de sa clientèle sont des célébrités. Pour certains, c'est un rêve de s'asseoir dans cet avion. Faut dire que la place coûte très cher. On y mange caviar, on y boit champagne et l'hôtesse de l'air prend des photos sur demande. Ces personnes se trouvent en fait dans un avion de luxe. Un avion unique et inégalé, mais surtout dans un avion de vitesse. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr du Concorde.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
29 novembre de l'an 1962. Nous sommes à Londres et la France et la Grande-Bretagne s'apprêtent à apposer leur signature en bas d'un document très important. Ce document engage les deux pays à construire un avion supersonique coûte que coûte et d'ailleurs il interdit de se retirer du programme. Deux équipes sont alors mandatées, une équipe française dirigée par André Turcat qui est pilote d'essai et une équipe anglaise dirigée par Brian Trubshaw qui est ancien pilote de la famille royale. Ils ont le même âge, les mêmes qualifications, ils vont devoir coopérer. Mais au début, ça se passe pas très bien, écoutez Brian Trubshaw. Au début, je les trouvais d'un contact un peu difficile, comme souvent avec les Français. Et puis André Turcat, lui, dit carrément « Peu d'entre eux ont fait un effort pour parler un peu le français, en particulier mon homologue Brian Trubshaw, qui s'est refusé définitivement à prononcer le moindre mot français. » Comme vous pouvez le voir, c'est un contact glacial. Mais au fil du temps, ils vont devoir se rapprocher, ils vont y arriver, et puis ils vont travailler ensemble, pour la France et la Grande-Bretagne.
Un jour, un fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Luca Gandros Fernandez.
Le 31 décembre 1968, nous sommes en Russie, anciennement l'URSS, et le prototype du Tupolev 144 s'apprête à décoller. Le Tupolev 144, c'est en fait le principal concurrent du Concorde. C'est Andrei Tupolev qui l'a développé, et il faut le dire, c'est une grosse copie du Concorde. On peut parler d'improvisation et de course contre la montre, puisque le Kremlin, pour impressionner, souvenez-vous, nous sommes en pleine guerre froide, qui oppose l'Amérique libéralisme et l'URSS communiste, dans une guerre indirecte, et parmi les catégories dans lesquelles ils font la guerre, il y a bien sûr la science. Le Kremlin, je disais, veut absolument le lancer avant le Concorde, et il va réussir, il va l'envoyer 3 mois avant, mais le succès sera beaucoup moins important. Selon la propagande, ils desservent les lignes intérieures de la compagnie Aeroflot. Mais il est impossible de traverser l'Atlantique parce qu'il ne peut pas voler à une vitesse supersonique que très peu de temps en fait. En plus de ça, il y a un manque de confort et le niveau sonore est élevé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'avion. 2 mars 1969, nous sommes à Toulouse, nous avons fait un retour en France. Et le temps est assez beau, et c'est un jour spécial, pour un avion spécial. Il vient d'atterrir, cet avion, après 27 minutes de vol. Vous l'aurez compris, c'est le Concorde 001, le premier prototype du Concorde. Alors, dès qu'il a atterri, il y a eu toutes sortes d'applaudissements, de cris, par la presse, la télévision, les journalistes, les patrons, les épouses. C'est une communication incroyable. Alors, pour revenir un petit peu dans l'histoire, le premier avion à avoir franchi le mur du son, quand on franchit le mur du son, on appelle cela le Mach 1, il faut aller à une vitesse de 100 km/h, et bien c'est le Bell X-1 de la compagnie Air Force en octobre 1947. Il a été largué depuis un avion porteur, et il faut savoir que c'est très dangereux puisqu'il y a eu de nombreux morts. Les pilotes, en fait, ne supportent pas la différence de pression entre le sol et l'air. Alors, pourquoi ce Bell X-1 a réussi alors que les autres n'ont pas réussi? Eh bien, c'est tout d'abord parce qu'il a un design d'avion-fusée, il a de puissants réacteurs, et puis il y avait cette condition de vol optimale. Alors ça, c'est en Amérique, mais si on fait un retour en Europe, les avancées technologiques sont principalement liées à l'armée, et en Grande-Bretagne, le Ferry Delta a déjà les ailes qui préfigurent celle du Concorde.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
Après cet incroyable essai du 2 mars 1969, la liste d'acheteurs potentiels pour le Concorde s'allonge. La Shanghai Airlines et la Lufthansa en commandent 3 exemplaires, le Panam, l'Air India et Japan Airlines en demandent un chacun, et pour stimuler encore plus les ventes, le dernier prototype du Concorde s'envole à Beyrouth, Singapour, Rio de Janeiro, Johannesburg, Sydney et Tokyo. Et tout ça est filmé et diffusé à la télévision, c'est une réelle publicité, et d'ailleurs ce sera l'avion le plus vendu de l'an 2000. Pourtant, de nombreux acheteurs vont se rétracter. Pourquoi ? Eh bien, aux États-Unis, il y a l'industrie aéronautique américaine. Et cette industrie, elle est en guerre contre le Concorde parce que cette industrie, elle a dû renoncer à son projet d'avion supersonique. Et maintenant, eh bien, elle veut empêcher la France et la Grande-Bretagne de réussir le leur. Alors soudain, le Concorde devient un appareil bruyant, un appareil polluant, alors qu'on n'avait jamais rien reproché au jet militaire supersonique américain. En plus, en 1973, il y a un choc pétrolier qui fait réfléchir, et les compagnies ne veulent plus d'un avion aussi gourmand. Les commandes vont alors s'annuler une par une, et puis à la fin, il ne va rester plus que la France et la Grande-Bretagne. C'est vrai que si l'on regarde le Concorde d'un point de vue économique, on peut dire que ça a été un fiasco total.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h avec Lucas Gandros Fernandez.
Le 25 juillet 2000, le vol Paris-New York a été beaucoup demandé. C'est pour ça qu'on a décidé d'affréter 2 avions. Un partira le matin et l'autre décollera l'après-midi. Et le couple d'Etelman avait réservé pour le vol de l'après-midi, d'ailleurs comme Gisèle Friedelm. Quelle importance, hein, vous allez voir. Le premier couple, donc le couple d'Etelman, va bien voyager dans le second vol, mais Gisèle Friedelm va en fait finalement décider d'échanger ses billets pour voyager dans le vol du matin avec une amie. Et vous comprendrez plus tard que ce petit changement aura de grandes conséquences. Il est 10h30, Gisèle Friedelm et son mari, ainsi que son amie d'ailleurs, embarquent dans le Concorde. C'est un rêve qui devient réalité. Il est 11h15, l'avion décolle, il effectue cette traversée depuis 25 ans, donc tout se déroule à merveille comme d'habitude. Et il est maintenant l'après-midi. Le second vol se prépare à faire embarquer les passagers, tandis que le premier traverse l'Atlantique. Le contrôleur s'installe dans sa tour de contrôle, comme par hasard il n'aurait pas dû travailler aujourd'hui, il remplace un collègue, l'hôtesse de l'air non plus, mais enfin bref. Le premier vol vient d'arriver, enfin. Et en descendant, un passager a dit cette phrase assez bizarre. Il nous a amenés ici en toute sécurité. Il nous a amenés ici en toute sécurité. Ce ne sera pas le cas pour le second. À Paris, nous sommes à bord du Concorde. On boit un verre de champagne, on prend des photos. Il est pratiquement 16h30 lorsque le commandant de bord déclare au contrôleur qu'il est prêt au décollage. 16h36, l'avion se dirige vers la piste. Et puis il est 16h42 lorsque le vol 4590 s'élance. Seulement, ce vol ne durera que 135 secondes. Je vais vous lire les dernières paroles des gens qui ont été à bord. Alors le cockpit commence. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, top, on a 4 réchauffes, tour de contrôle. Concorde 4590, vous avez des flammes derrière vous. Cockpit, bien reçu, panne moteur 2. Tour de contrôle, donc faites à votre convenance, vous avez la priorité sur le retour du terrain, sur le terrain. Le cockpit, trop tard, pas le temps. Et puis là, il y a une explosion incroyable, énorme. La tour de contrôle tente Air France 4590, me recevez-vous ? Mais il n'aura jamais de réponse. On peut voir maintenant cette grosse fumée sortir du Concorde écrasé au sol près d'un hôtel. Les véhicules de secours accourent, mais il n'y a rien à faire, il n'y a aucun survivant. 160 passagers ont perdu la mort, 9 membres de l'équipage également. Il y a aussi des blessés dans les maisons voisines, et le gérant de l'hôtel est sous le choc. Il était dans son bureau au téléphone quand il a entendu un bruit, il a crié « Le Concorde me tombe dessus !» Il a lâché le téléphone et est parti en courant. C'est réellement un tournant dans l'histoire de l'aviation. Alors, quelle est la cause de l'accident ? Eh bien, c'est en fait une pièce de métal d'une vingtaine de centimètres, de 200 grammes en titane, qui est tombée d'un avion américain et qui a provoqué l'éclatement d'un pneu. Ce pneu a lui-même perforé un réservoir d'essence, et puis je vous laisse imaginer la suite. Après la catastrophe, on change les pneus, on en met des plus résistants, les réservoirs sont renforcés, ça coûte 200 millions d'euros. Mais cependant, 3 ans après l'accident, le Concorde est retiré du service. C'est la fin d'un mythe.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
Mai 2003, un des 5 Concorde préservés pour la postérité s'envolait pour la dernière fois vers l'Allemagne. Il faut imaginer une foule impressionnante qui se masse vers l'avion. Il y en a certains qui écoutent les communications radio, tandis que d'autres sont au bord des larmes. C'est un réel spectacle. Ce Concorde, hélas pour nous, il ne reviendra jamais parce qu'il va être offert pour 1 euro symbolique au musée Sinsheim. Je ne sais pas si j'ai prononcé correctement. En hommage aux nombreux morts, dont la majeure partie était allemand. On peut donc encore le voir aujourd'hui, prêt à s'envoler pour une nouvelle destination.
Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait avec Luca Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
J'aimerais rajouter qu'il y a des entreprises qui sont toutes privées qui travaillent sur des avions supersoniques. Alors on parle plutôt de jets supersoniques, qui ont 50 places et qui pourraient être mises en service en 2026. Ils devraient tous fonctionner avec du biocarburant, ce qui est une bonne nouvelle pour la planète. Le mythe du Concorde ne va peut-être pas s'éteindre complètement. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur l'antenne de Radio Prévert.
Un jour, un fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h avec Luca Gandros Fernandez.